silencieuse. Elle timide, nouvelle, partie 2 sur 2. Le chirurgien était debout devant moi. Il chancela quand je parlais. Puis il se tint droit. « Que voulez-vous dire ? » dit-il. « Ce que je dis, le nom de l'ancien fiancé de Léonora est le capitaine Gifford. Il est à l'étage, c'est votre patient. Allez voir Léonora si vous ne me croyez pas et demandez-lui comment s'appelait-il. Elle vous répondra « Capitaine Gifford ». Si vous ne me croyez toujours pas, demandez-lui de vous montrer sa photographie. C'est celle de l'homme qui est en haut. Il est vivant. C'est votre patient. Prenez une chaise, dit Monsieur Herzley. Je me suis laissé tomber sur la chaise la plus proche. Maintenant, répétez cette histoire à nouveau, dit-il. Je m'exécutais. Quand j'eus terminé, il prit la parole. Je dois vous laisser un moment, infirmière. Je me suis levée. J'étais vraiment effrayée. Je ne resterai pas dans cette pièce, m'écriai-je. Je dois voir Léonora, et tout de suite. Vous ne la verrez pas ce soir. Pendant mon absence, vous devez rester ici. Il se dirigea vers la porte, l'ouvrit, sortit, la referma et la verrouilla derrière lui. Au bout d'une heure, il revint. Son visage était aussi calme et puissant que jamais. Il referma la porte à clé et mit la clé dans sa poche. « J'ai vérifié la véracité de votre déclaration, » a-t-il dit. « Maintenant, infirmière, vous et moi devons nous mettre d'accord. »« Non, » ai-je répondu. « Osez-vous me défier ?»« Oui. » »« Vous ne le ferez guère. » Quand vous saurez tout. J'ai passé la dernière heure à vérifier la véracité de ce que vous avez dit. J'ai la confirmation que vos propos étaient exacts. Vous ne m'avez donc pas cru ? Je vous ai cru en partie, non en totalité. J'étais résolu à prouver la chose par moi-même. J'ai rendu visite à Mademoiselle Tréfusis. Pour la première fois depuis nos fiançailles, j'ai fait allusion à son ancien fiancé. J'en ai parlé avec douceur, elle a pleuré. Je l'ai embrassée et l'ai assurée de ma sympathie. Je lui ai demandé son nom et des détails sur lui. J'ai vu sa photographie. Vous avez raison, mon rival vit, il est là-haut. Demain, on attend de moi une opération des plus critiques sur lui. Pensez à ce que vous avez mis en mon pouvoir. L'opération est d'une extrême difficulté. Le moindre mouvement du scalpel signifie la mort. Ne voyez-vous pas comme vous avez agi follement quand vous m'avez dit tout cela avant l'opération ? Je frissonnais, puis poussé par la terreur la plus inattendue, je tombai à genoux. « Pour l'amour du ciel, ne commettez pas un meurtre !» m'écriai-je. « Relevez-vous. » Je n'ai pas la moindre intention de commettre un meurtre. Je vais opérer le capitaine Gifford, et quand je le ferai, l'opération sera réussie. L'affaire est trop critique, trop précieuse pour que je la gâche. Je gagnerai une nouvelle influence dans ma profession en réussissant une opération aussi difficile. L'ambition et l'amour rivalisent en moi. Je n'ai pas l'intention de sacrifier l'un ou l'autre. Mais j'ai décidé de faire ceci. L'opération sera reportée. Je donnerai au capitaine Gifford d'excellentes raisons pour cela. Je le garderai ici, mais je n'opérerai qu'après mon mariage. Maintenant, vous comprenez ? Vous pouvez, si vous le souhaitez, retourner auprès de Léonora et rester avec elle jusqu'à son mariage. Ou vous pouvez me défier. Vous voulez dire que je dois retourner auprès de Léonora ? Et ne pas lui dire ce que j'ai découvert ? C'est ce que je veux dire, mais vous pouvez vous faire plaisir. Quelle autre alternative m'offrez-vous ? Je vous scellerai les lèvres. Comment ? Que voulez-vous dire ? Vous allez m'emprisonner ? Non. Alors, comment pourrez-vous me sceller les lèvres ? C'est mon secret. Vous ne quitterez pas cette maison ce soir. Demain matin, je vous parlerai peut-être à nouveau. Si demain vous me faites la promesse nécessaire, je suis sûr que vous la tiendrez. Et je vous ferai confiance pour retourner auprès de Léonora. Si vous refusez de faire cette promesse, je vous scellerai les lèvres. » Tout en parlant, il ouvrit la porte de son cabinet de consultation et me fit signe de le quitter. Tremblant de tous mes membres, je suis allé dans ma chambre. J'avais horriblement peur. Mon souhait le plus cher était de sortir de la maison. Et je suis resté dans ma chambre pendant 2 heures, puis je suis descendu. J'ai essayé de déverrouiller la porte d'entrée. Au moment où je le faisais, M. Herzley est sorti et m'a fait face. « Retournez dans votre chambre », a-t-il dit lentement et avec ce sourire sur les lèvres que j'ai déjà mentionné. Je me suis enfui à l'étage, comme si j'étais poursuivi par une furie. Je m'assis à côté de mon lit, portant encore ma coiffe et mon manteau. Le temps passait, la maison était silencieuse comme une tombe. Accablé par l'excitation et l'émotion, je me suis soudain retrouvé assoupi. Je décidai de résister au sommeil et me levai. Une fois de plus, j'y cédai. Enfin, je tombai dans un profond sommeil. Un mouvement soudain me réveilla. J'ai ouvert grand les yeux. À cet instant, je fis un effort frénétique pour me relever. Je m'aperçus que j'en étais incapable. Monsieur Herzley était dans la pièce. Une lampe de chevet était posée sur la table de toilette. La lumière électrique était allumée. Le chirurgien se penchait sur moi. Il tenait quelque chose contre ma bouche et mes narines. Et dans son autre main, il tenait fermement mes 2 mains. Je fis un autre effort futile pour me lever. L'odeur légère et sucrée du chloroforme n'était que trop apparente. Chacun de mes membres était lourd comme du plomb. Les yeux cruels de Herzley fixaient les miens. « Vous êtes en mon pouvoir, » dit-il. « Je vais vous sceller les lèvres. » Pendant qu'il parlait, j'ai cessé de me débattre. Rien au monde ne semblait avoir d'importance. Je ne me souciais pas de perdre mes sens ou non. Je ne me souvenais plus de rien. Quand, enfin, je me réveillais, c'était le matin. Les fenêtres de la chambre étaient grandes ouvertes. J'étais allongé devant la cheminée, la tête près de l'angle aigu du garde-feu. Je me sentais bizarre et pesante, et j'avais une douleur sourde dans les tempes. Je me suis demandé ce qui s'était passé et pourquoi j'étais allongé ainsi. Pendant un moment, je suis resté tranquille, repensant aux événements de la nuit précédente. Le fiancé de Léonora était revenu. Il devait être opéré ce matin-là et j'étais l'infirmière qui avait été choisie pour s'occuper de cette affaire. Pourtant, je n'étais pas pressée de me lever. Chaque membre était apaisé, rien ne semblait avoir d'importance. La porte s'ouvrit bientôt et une domestique entra avec un broc d'eau chaude. Elle a reculé d'un bond, étonnée et terrorisée en me voyant, puis, posant précipitamment le broc, elle courut vers moi. « Qu'est-ce qui se passe ? » s'écria-t-elle. « Que s'est-il passé ?» Je faisais un effort pour parler, mais pas un mot ne venait. Seulement un gargouillis dans ma gorge. J'essayais de me relever. « Dieu du ciel ! Mon côté droit, mon bras et ma jambe étaient impuissants. Je m'affaissais avec un gémissement. Ce faisant, je remarquai un peu de sang sur la bordure du garde-feu que j'avais manifestement heurté. La fille, maintenant terrifiée, s'était précipitée hors de la pièce et est revenue quelques instants plus tard avec M. Herzley. Il s'approcha aussitôt de moi et me regarda attentivement.
« C'est épouvantable, » l'ai-je entendu murmurer. En parlant, il a levé mon bras paralysé et l'a laissé retomber. « Comment cela est-il arrivé, infirmière Petre ?» demanda-t-il.
J'ai de nouveau essayé de parler. Mes lèvres ont bougé, mais aucun son ne s'en est échappé.
« Sonnez l'infirmière Martha « Et mettez-la au lit, immédiatement, » dit Monsieur Herzley en se tournant vers la domestique. « C'est un cas d'apoplexie. Quelle chose épouvantable ! Je serai de retour dans quelques minutes. » La domestique m'aida à me déshabiller et sonna l'autre infirmière. Elle me mit rapidement au lit. Au bout d'un quart d'heure environ, Monsieur Herzley revint avec un autre médecin. Tous deux m'examinèrent attentivement.
« Il n'y a aucun doute sur ce qui s'est passé, » dit le nouveau médecin en se tournant vers le chirurgien. « Hémorragie du cerveau moyen gauche avec hémiplégie et aphasie. C'est assez curieux chez une si jeune fille, » poursuivit-il. « Je n'ai vu que deux ou trois cas à son âge. Une de vos propres infirmières aussi, me dites-vous. Très triste en effet. » L'esprit est pleinement conscient, mais la faculté de parole est perdue. La circonvolution de Broca est manifestement touchée. « Pouvez-vous lever votre bras droit ? » a-t-il dit en se penchant sur moi. Je secouai la tête à sa question. « Vous voyez qu'elle comprend ce qu'on lui dit, » ajouta-t-il en regardant M. Herzley. Quelques instructions ont été données à l'infirmière qui était restée dans la chambre, puis les deux médecins sont sortis. J'ai pu les entendre parler dehors pendant quelques instants, puis ils sont descendus. Peu après, M. Herzley revint. Il fit sortir l'infirmière Martha de la pièce et se pencha sur moi. « Vous voyez, » dit-il, parlant sur son ton habituel, calme et délibéré. Combien vous avez eu tort de ne pas céder à mes conditions raisonnables la nuit dernière ? Vous avez commis une erreur, dit-il, et vous en subissez les conséquences. Je vous ai dit que si vous n'acceptiez pas mes conditions, je devais vous sceller les lèvres. C'est ce que j'ai fait. Une fois de plus, je fis un effort frénétique pour répondre, mais pas un mot ne vint.
« Vous vous blessez vous-même par l'émotion que vous montrez, » dit-il. « Maintenant, écoutez. J'ai l'intention d'épouser Mademoiselle Tréfusis, et pour ce faire, vous ne parlerez plus jamais. Avec mon immense connaissance de la localisation des centres moteurs du cerveau, il m'a été facile de faire ce que j'ai fait. Quand je vous ai vu essayer de quitter la maison hier soir, j'ai pris ma décision. J'ai attendu que vous vous endormiez, puis je vous ai administré un anesthésiant. Le reste était facile. Avec un instrument approprié, j'ai fait une petite ouverture dans l'os au sommet de votre tempe, juste au-dessus du centre qui contrôle le pouvoir de la parole. Après avoir fait le trou dans l'os, j'ai introduit une sonde et brisé cette partie du tissu cérébral. L'ouverture externe est à peine visible. Vous êtes censé souffrir d'une hémorragie cérébrale. Vous pouvez vous lever de votre lit, mais vous ne pouvez pas parler ni contrôler suffisamment votre cerveau pour écrire quoi que ce soit, même avec votre main gauche. Vous êtes donc aussi impuissante à transmettre les informations que vous connaissez à Léonora Tréfusis que si vous étiez morte. » Il marqua une pause puis reprit. « Vous voulez tout savoir ? Et je suis prêt à vous le dire. Après avoir pratiqué l'opération, je vous ai placé la tête à côté de l'angle aigu du garde-feu sur lequel s'est étalé un peu de sang. Vous pouvez attirer l'attention sur la petite blessure que vous avez sur la tête en faisant des signes à l'infirmière, mais on lui a dit que cette blessure avait été causée par votre chute. » Après avoir prononcé ces derniers mots, il se retourna et quitta la chambre. Je suis restée parfaitement immobile dans mon lit. L'infirmière n'avait rien ou presque rien à faire pour moi. Tout ce que je souhaitais, c'était d'être seule. Mon cerveau actif tournant sans cesse autour du problème me torturait jusqu'à la folie. Je savais que j'étais condamnée, j'étais enchaînée comme dans du fer. Moi, dans ma première jeunesse, j'étais vouée au silence de la tombe. Monsieur Herzley épouserait Léonora, le capitaine Gifford mourrait probablement.
Ces pensées sinistres me torturaient jour et nuit. Enfin, environ une semaine après ma crise, Léonora vint me voir. Elle était très pâle et triste, et lorsqu'elle entra dans la pièce et remarqua le changement de mon visage, elle éclata en sanglots. « Oh, ma pauvre chérie !» s'exclama-t-elle. « Comme vous avez l'air de souffrir !» En parlant ainsi, elle se jeta à genoux à mes côtés.
« Lève-toi, Léonora !» dit une voix que j'avais appris à redouter avec une horreur indicible.
Monsieur Herzley était entré dans la pièce.
« Cette émotion est mauvaise pour vous, et mauvaise aussi pour la malade !» ajouta-t-il.
« Paul ne parlera-t-elle plus jamais ?» demanda la jeune fille.
« C'est peu probable, mais nous devons espérer une amélioration. »«
Elle a l'air si anxieuse et pathétique, » dit Mademoiselle Tréfusis. « Regardez ses yeux, ils sont pleins de questions. Elle a envie de nous dire quelque chose, peut-être qu'elle peut l'écrire. »«
Essayez, » dit Monsieur Herzley.
Tout en parlant, il traversa la pièce, prit une feuille de papier et un crayon et les apporta à mes côtés.
« Essayez avec votre main gauche, » dit-il, à voix basse.
J'ai levé les yeux vers lui et j'ai fait un effort frénétique, en vain. Mon cerveau dirigeait les mots, mais la main ne voulait pas obéir à son maître. Je n'ai pu tracer que quelques lignes sur le papier.
« Elle ne peut pas, » dit le chirurgien en regardant Léonora. « Cela la torture d'essayer. »
Il remit le papier en place. Léonora se pencha sur moi et m'embrassa. « Reposez-vous tranquillement, ma chérie, » dit-elle. « Après mon mariage, vous vivrez avec moi. Je vous soignerai et je vous aimerai. J'essaierai de vous rendre un peu de ce que vous avez fait pour moi. » Puis, elle quitta la pièce, ses larmes coulant toujours. Quelques semaines passèrent encore, sans que mon état ne change. Au cours de ces semaines, j'avais appris ce que signifiait le désespoir. Un certain matin s'est levé. Je me suis réveillée en me sentant singulièrement mieux. Je ne pouvais pas expliquer mes sensations, mais je me sentais plus légère et les jambes moins pesantes. Je remarquais également que je pouvais bouger mon bras. La paralysie était manifestement en train de disparaître. Une fois de plus, j'ai fait un effort pour parler, mais pas un mot ne venait. Pourtant, la paralysie du bras et du côté était moins marquée. Lorsque l'infirmière est entrée dans la chambre, j'ai eu envie de lui crier « Je vais mieux !» Mais je pense que mes yeux ont dû lui dire quelque chose, car elle s'est penchée sur moi et m'a dit joyeusement
« Oh, ça alors, vous avez l'air d'être redevenu vous-même !»
J'ai levé mon bras d'un pouce environ pour attirer son attention. « C'est formidable !» dit-elle. « Je dois en informer Monsieur Herzley. » Elle se tenait au pied du lit comme si elle réfléchissait. « Je ne sais pas si je dois le déranger aujourd'hui, » dit-elle. « C'est le jour de son mariage. » « Eh bien, infirmière, quelle drôle d'expression vous avez sur le visage !» ajouta-t-elle. Vous avez des yeux si étranges. Je n'ai jamais vu des yeux humains exprimer autant de choses. Je ne crois pas que vous aimiez ce mariage. Eh bien, Miss Tréfusis est une belle jeune femme, mais... Alors, Monsieur Herzley est si intelligent, le chirurgien le plus intelligent de son temps. Bien sûr, il est plus âgé, mais quand même... On a frappé à la porte. L'infirmière est allée ouvrir. Je l'ai entendu pousser une exclamation, puis... Elle est revenue sur la pointe des pieds à mes côtés. « Voici de la visite !» dit-elle. « On vous fait un grand honneur. Devinez qui est derrière la porte. Personne d'autre que la mariée elle-même, Mademoiselle Tréfusis. Dois-je la faire entrer ?» Mes yeux ont parlé. Ma main s'est levée une fois de plus. Léonora est entrée. Elle était dans sa robe de mariée. Sa beauté est extraordinaire et saisissante, mais... Son doux visage était d'une pâleur affreuse et ses yeux sombres étaient pleins d'une tristesse incontrôlable. Je fis signe de la main à l'infirmière Martha de nous laisser. Léonora s'approcha de moi. « J'espérais que vous auriez pu aller mieux, » dit-elle en se penchant sur moi. Je ne pourrai pas partir sans vous voir et vous dire au revoir. Oui, je vais à l'église maintenant pour me marier. Ah, infirmière, chère infirmière, il n'est jamais revenu. Je serai Madame Hertzley dans une heure. J'ai fait signe de la main et j'ai dit avec mes yeux, « Restez avec moi un peu. » Mon destin est épouvantable, réconfortez-moi de votre présence pour quelques instants seulement. Elle semblait lire dans mes pensées, car sans un mot, elle s'est assise près de moi. Elle prit ma main et la couvrit de ses baisers. Quelques-unes de ses larmes y ont coulé. Tandis qu'elle s'asseyait ainsi, que les moments passaient rapidement et que je savais que dans très peu de temps, son destin serait irrévocablement scellé, une détermination frénétique se réveilla en moi. Si aucun mot ne pouvait monter à mes lèvres, je pouvais au moins diriger mes pensées vers la Providence. J'ai commencé à prier frénétiquement, désespérément. J'ai commencé à implorer le Tout-Puissant de me rendre le don de la parole. « Permettez-moi, Seigneur, l'ai-je supplié, seulement pour une heure, une demi-heure, quelques instants, juste pour que je puisse la sauver. » Comme je parlais ainsi à Dieu, la lumière de mes yeux devait être merveilleuse, car Léonora me toucha. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-elle. « Vos yeux semblent parler. Il y a quelque chose qui vous préoccupe ? Oh, infirmière, chère infirmière, faites un effort. Si vous faites un grand effort, un effort frénétique, vous pourrez sûrement faire bouger cette langue silencieuse. » Mon cœur battait la chamade. « Un mot, Seigneur, même un mot !» ai-je supplié, un mot pour la sauver, pour empêcher qu'un grand, un terrible mal soit fait. J'ai remué les lèvres, un bruit guttural est monté à ma gorge. Soudain, au prix d'un puissant effort, le sang me montant aux tempes, je m'aperçus que la parole, depuis longtemps perdue, était revenue. « Léonora !» ai-je chuchoté. « Grand Dieu ! Elle parle !» s'est écriée la jeune fille. Elle tomba à genoux et me serra les deux mains. « ma chère, dites-moi ce que vous avez sur le cœur !» Je savais que mes paroles devaient être brèves. Je devais les choisir avant de les prononcer. « Léonora, écoute, ai-je dit, n'épouse pas Monsieur Hertzley. Le capitaine Gifford est dans cette maison. » « N'épouse pas ce mauvais homme !» Ce sont les seuls mots que je me suis trouvé capable de prononcer. Mon cerveau a vacillé, la pièce est devenue sombre, j'ai plongé dans l'inconscience totale. J'ai été très malade par la suite et je n'ai plus rien su pendant longtemps. Lorsque je revins à moi, Léonora me raconta l'histoire des jours suivants. D'après mon conseil, elle partit à la recherche du capitaine Gifford et le trouva. Elle ne dit rien ou presque de cette entrevue et je ne l'interrogeai pas. Monsieur Hertzley rentra à la maison environ une demi-heure après que j'eus recouvré la parole. Léonora elle-même le rencontra et lui raconta ce qui s'était passé. Il la regarda tranquillement. Son visage devint blanc et il sortit de la maison pour ne plus jamais revenir. Il n'est plus jamais revenu à Harley Street. Je ne peux pas dire dans quelle partie du monde il se trouve maintenant, mais au moins sa carrière en Angleterre est terminée. Un autre grand chirurgien a opéré le capitaine Gifford qui s'est rétabli et demain, Léonora sera sa femme. Quant à moi, je me remets lentement, mais complètement. L'affreux silence est terminé. Il a été brisé à temps. Dieu merci.